Platon, Protagoras, les sophistes. Personnage du dialogue, d'abord un ami de Socrate et Socrate, ensuite Hippocrate, Protagoras, Alcibiade, Critias, Prodicos et Hippias. L'ami de Socrate. D'où viens-tu, Socrate? Sans doute de la chasse à la beauté d'Alcibiade? À dire vrai, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, et je trouve que c'est toujours un bel homme, mais un homme pourtant, soit dit entre nous, Socrate est déjà bien barbu. Socrate. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? N'es-tu pas de l'avis d'Homère, qui a dit que l'âge le plus charmant était celui du premier duvet, justement l'âge d'Alcibiade? Alors à quel point en es-tu? Viens-tu de le quitter? Comment le jeune homme est-il disposé à ton égard? Bien, ce me semble, et aujourd'hui mieux que jamais, car il a pris mon parti plus d'une fois, et je viens seulement de le quitter. Je vais seulement te dire une chose qui te surprendra, c'est qu'en sa présence je n'ai pas fait attention à lui et que j'ai oublié souvent qu'il était là. Qu'est-ce qui peut bien vous être arrivé de si grave à tous deux? Tu n'as pourtant pas rencontré de plus beau garçon que lui, du moins dans notre ville. Oh, si, beaucoup plus beau! Que dis-tu, est-ce un Athénien ou un étranger? Un étranger? D'où est-il? D'Abdère. Et cet étranger t'a paru si beau qu'il surpasse à tes yeux le fils de Clinias? Et comment, mon cher, le plus sage ne paraîtrait-il pas le plus beau? Ah, c'est un sage que tu as rencontré en venant ici. Oui, et le plus sage, sans contredit des hommes de ce temps. Si tu crois que Protagoras mérite ce titre. Oh, que dis-tu, Protagoras est ici? Oui, depuis 2 jours. Et c'est avec lui que tu étais tout à l'heure. Oui, nous avons échangé fort ce propos. Oh, raconte-moi vite cet entretien, si tu n'as rien de plus pressé. Assieds-toi là, à la place de mon esclave. Très volontiers, et même je vous serai obligé de m'écouter. Et nous aussi de t'entendre. L'obligation sera réciproque. Écoutez donc. Ce matin, dans l'obscurité du petit jour, Hippocrate, fils d'Apollodore et frère de Phason, est venu frapper violemment à ma porte avec son bâton. Aussitôt qu'on lui eut ouvert la porte, il est entré en coup de vent et m'a crié « Socrate, es-tu éveillé ou dors-tu ?» J'ai reconnu sa voix. « Oh, cet Hippocrate, ai-je dit, tu as des nouvelles à m'annoncer ? Rien que de bonnes. » Tant mieux, mais qu'y a-t-il et pourquoi viens-tu à pareille heure? Protagoras est ici, me dit-il en se plantant devant moi. Oui, depuis avant-hier, dis-je. Tu viens seulement de l'apprendre? Oui, par les dieux, hier au soir. Et en même temps, il tâtait mon lit et s'asseyait à mes pieds. Oui, hier au soir, poursuivit-il. Très tard, revenant d'Eunoé, il faut te dire que mon esclave Satyros s'était enfui. Alors j'étais sur le point de venir t'avertir que j'allais me mettre à sa poursuite, quand un incident me l'a fait oublier. À mon retour, nous avons dîné et nous allions nous coucher, quand mon frère me dit « Protagoras est ici ». Alors tout d'abord, je voulais encore raccourir te le dire, puis je pensais que la nuit était trop avancée. Mais dès que le sommeil m'a eu remis de ma fatigue, je me suis levé et je suis venu ici, comme tu vois. En le voyant si décidé, si exalté, je lui ai dit « Qu'est-ce que cela te fait? Protagoras a-t-il quelque tort envers toi ?» Il m'a répondu en riant « Oui, par les dieux, Socrate. Il a tort de garder sa science pour lui seul, sans m'en faire part. Eh, par Zeus, tu n'as qu'à lui donner de l'argent et à le décider. Il te rendra savant toi aussi. Oh, si seulement aux Zeus et tous les dieux, il ne tenait qu'à cela, je ne me laisserai rien à moi, ni à mes amis. C'est justement pour cela que je viens te trouver à présent. C'est pour que tu lui parles de moi. Car je suis trop jeune et je n'ai jamais vu ni entendu Protagoras. J'étais encore enfant lors de son premier séjour ici. Mais tout le monde, Socrate, fait l'éloge du personnage et on le donne pour le plus éloquent des hommes. Rendons-nous vite chez lui afin de le trouver au logis. Il est descendu, dit-on, chez Callias, fils d'Hipponikos. Allons-y. Oh, pas encore, mon bon ami, c'est trop matin. Restons ici, levons-nous et allons dans la cour pour nous promener et passer le temps jusqu'à ce qu'il fasse jour. Nous irons alors. Oh, Protagoras ne sort guère. Aussi n'aie pas peur, nous le trouverons, selon toute vraisemblance, au logis. Alors, nous nous sommes levés et nous nous sommes promenés dans la cour. Pour éprouver la résolution d'Hippocrate, je lui ai demandé, en l'observant de l'œil, « Dis-moi, Hippocrate, te voilà prêt à aller trouver Protagoras et à lui donner de l'argent en retour des soins qu'il prendra de toi. Mais sais-tu bien chez qui tu vas et ce que tu veux devenir ? Si par exemple tu le proposais d'aller chez son homonyme Hippocrate de Cos de la famille des Asclépiades et de lui donner de l'argent pour s'occuper de toi et qu'on te demandât « Dis-moi, Hippocrate, tu vas payer le salaire à Hippocrate, mais sais-tu bien à quel titre ? Que répondrais-tu ? » Ben, « Je répondrai, dit-il, à titre de médecin. Et dans quel but ? » Dans le but de devenir médecin. Et si tu te proposais d'aller chez Polyclète d'Argos ou Phidias d'Athènes et de leur payer un salaire pour s'occuper de toi et qu'on te demandât, en donnant cet argent à Polyclète et à Prodigias, à quel titre te leur donnes-tu ? Que répondrais-tu ? Je répondrais à titre de sculpteur. Et quel est ton but à toi ? Évidemment, de devenir sculpteur. Bien, lui dis-je. À présent, c'est chez Protagoras que nous allons nous rendre, toi et moi, prêts à lui donner de l'argent pour qu'il s'occupe de toi. Si notre fortune peut y suffire et si nous pouvons le décider par là, sinon, nous y ajouterons celle de nos amis. Si donc, en nous voyant mettre tant d'ardeur à ce projet, quelqu'un nous demandait. « Dites-moi, Socrate et Hippocrate, à quel titre avez-vous l'intention d'offrir de l'argent à Protagoras ? Que lui répondrions-nous ? Quel est le nom particulier dont on appelle Protagoras, comme on appelle Phidias sculpteur, Homère poète ? Quel est le nom analogue qu'on donne à Protagoras ? Celui de sophiste, Socrate, c'est ainsi qu'on le désigne. C'est donc à titre de sophiste que nous allons lui payer cet argent. Oui. Et si on te posait encore cette question, mais toi, que veux-tu devenir en allant chez Protagoras ? Alors il m'a répondu en rougissant, car il faisait alors assez de jours pour qu'on pût bien la voir. Ben, s'il faut être conséquent, je veux évidemment devenir un sophiste. « Au nom des dieux, lui ai-je dit, ne rougirais-tu pas de te donner pour sophiste à la face des Grecs ?»« Si, par Zeus, Socrate, s'il faut dire ce que je pense. »« Mais peut-être, Hippocrate, penses-tu que tes études chez Protagoras seront un autre but, comme celles que tu as faites chez le maître d'école, le maître de sitar, le maître de gymnastique ?» Tu as reçu l'enseignement de chacun de ses maîtres, non point en vue d'en faire métier et profession, mais pour te cultiver, comme il convient à un profane et à un homme libre. Oui, je suis tout à fait de ton avis. C'est plutôt dans cet esprit que je suivrai les leçons de Protagoras. Mais sais-tu bien ce que tu vas faire maintenant, ou cela t'échappe-t-il ? À quel propos ? Je veux dire que tu vas confier le soin de ton âme un homme qui est, tu le reconnais, un sophiste. Mais qu'est-ce que peut bien être un sophiste ? Je serais surpris si tu le savais. Ou si tu l'ignores, tu ne sais pas non plus à qui tu remets ton âme, si c'est pour ton bien ou pour ton mal. Mais je crois le savoir. Alors dis-le, qu'est-ce qu'un sophiste selon toi? Selon moi, c'est comme le nom l'indique, un maître en savoir. Bon, on peut en dire autant des peintres, des architectes. Ce sont aussi des maîtres d'en savoir. Mais si l'on nous demandait en quoi les peintres sont des maîtres d'en savoir, nous répondrions sans doute que c'est dans l'exécution des portraits, et ainsi du reste. Mais si l'on nous posait cette question, le sophiste, en quoi est-il un maître en savoir? Que répondrions-nous? En quel art est-il maître? Ce que nous répondrions, Socrate, bien, qu'il est maître en l'art de rendre les hommes habiles à parler. Ben, la réponse serait peut-être juste, mais insuffisante, car elle appelle une autre question. Sur quoi le sophiste rend-il habile à parler? Ainsi le joueur de cithare rend habile à parler sur la manière qu'il enseigne l'art de jouer de la cithare, n'est-ce pas vrai? Si? Bien. Mais le sophiste, sur quoi rend-il habile à parler? Évidemment, n'est-ce pas, sur la matière où il est lui-même savant? Sans doute. Mais quelle est la matière où le sophiste est lui-même savant et rend savant son élève? Ben, pardon, je ne sais plus que te répondre. Mais quoi donc, repris-je, sais-tu à quel danger tu vas soumettre ton âme? S'il te fallait confier ton corps à quelqu'un et courir le hasard de fortifier ou de gâter ta santé, tu regarderais à deux fois pour t'en remettre ou à non à ses soins. Tu appellerais en consultation tes amis et tes parents, et tu réfléchirais plus d'un jour. Et pour une chose que tu mets bien au-dessus de ton corps, pour ton âme, dont dépend tout ton sort, puisque tu seras heureux ou malheureux selon que ton âme sera bonne ou mauvaise, pour ton âme, dis-je, tu n'as consulté ni ton père, ni ton frère, ni aucun de nous, tes amis, pour décider s'il fallait la confier ou non à cet étranger qui vient d'arriver. C'est d'hier soir que tu sais, d'y voir son arrivée, et tu t'en viens dès la pointe du jour, sans prendre le temps de réfléchir ni de consulter s'il faut ou non remettre ton âme entre ses mains, tout prêt à dépenser ta fortune et celle de tes amis. Car tu as décidé tout de suite qu'il fallait absolument t'attacher à Protagoras, que tu ne connais pas, dis-tu, et à qui n'a jamais parlé. Tu l'appelles sophiste, mais il est visible que tu ignores ce que c'est qu'un sophiste à qui tu veux te confier. Alors lui, là-dessus, m'a répondu, il semble bien à t'entendre que tu as raison. Est-ce qu'un sophiste, Hippocrate, n'est pas une sorte de marchand et de trafiquant des denrées dont ton âme se nourrit? Il me paraît à moi que c'est quelque chose comme cela. Mais l'âme, Socrate, de quoi se nourrit-elle? De science, je suppose. Aussi faut-il craindre, ami, que le sophiste, en vantant sa marchandise, ne nous trompe comme ceux qui trafiquent ou alimentent du corps, marchands ou détaillants. Ceux-ci, en effet, ignorent ce qui, dans ces denrées qu'ils comportent, est bon ou mauvais pour le corps. Mais ils n'en vendent pas moins toutes leurs marchandises, et leurs acheteurs ne s'y connaissent pas mieux, à moins qu'il ne s'y trouve quelques maîtres de gymnastique ou quelques médecins. Il en est de même de ceux qui colportent des sciences de la ville en ville et qui les vendent et les détaillent. Oh, il ne manque jamais de vanter aux amateurs tout ce qu'ils vendent. Mais il peut se faire, mon bon ami, qu'un certain nombre d'entre eux ignorent ce qui, dans leurs marchandises, est bon ou mauvais pour l'âme. Et leurs acheteurs l'ignorent aussi, à moins qu'ils ne s'y trouvent quelques médecins de l'âme. Si donc tu sais ce qu'il y a dans ces marchandises de bon ou de mauvais pour l'âme, oh, tu peux sans danger acheter les sciences, et à Protagoras et à tout autre. Sinon, prends garde, mon jeune homme, de hasarder sur un coup de dé ce que tu as de plus cher, car le danger est beaucoup plus grand dans l'achat des sciences que dans l'achat des aliments. Si en effet on achète des vivres et des boissons à un détaillant ou à un marchand, on peut les emporter dans les vases appropriés, et avant de les introduire dans le corps en les buvant et en les mangeant, on peut les déposer chez soi, consulter, faire appel à quelqu'un qui sait ce qu'il faut manger ou boire et ce qu'il ne faut pas, combien il faut en prendre et à quel moment, de sorte qu'on ne court pas grand danger à les acheter. Mais les sciences, on ne peut les emporter dans un autre vase. Il faut, le prix payé, loger dans son âme même la science qu'on apprend et s'en aller empoisonner ou conforter. Examinons donc la question avec des gens plus vieux que vous, car nous sommes encore jeunes pour trancher une affaire si importante. Mais à présent, puisque nous en sommes en train, allons écouter cet homme. Puis nous communiquerons à d'autres ce que nous avons entendu. Aussi bien Protagoras n'est pas tout seul là-bas. Nous trouverons avec lui Pias d'Élis, et je crois aussi Prodicos de Céos, et plusieurs autres sages. Cette résolution prise, nous partons. Arrivés au vestibule, nous nous sommes arrêtés. Nous étions en train de discuter sur un sujet sur lequel nous étions tombés chemin faisant. Ne voulant pas rester au milieu de notre discussion et entrer sans l'avoir épuisée, nous l'avons continuée debout dans le vestibule jusqu'à ce que nous soyons tombés d'accord. Je crois bien que le portier, un eunuque, nous entendait, et il semble qu'avoir tant de sophistes, il avait pris de l'humeur contre les visiteurs. Car à peine avons-nous frappé à sa porte, et nous a-t-il ouvert? Quand nous apercevant, il s'écrie: Ah, oh, des sophistes! Oh, mon maître n'a pas le temps! Et en même temps de ses deux mains, il nous ferme la porte au nez avec tout l'entrain dont il était capable. Nous frappons de nouveau, et il nous répond à travers la porte: Vous n'avez pas entendu? Je vous ai dit que mon maître n'avait pas le temps! Mais mon brave, ce n'est pas Callias que nous demandons, et nous ne sommes pas des sophistes, rassure-toi! Nous sommes venus pour voir Protagoras, va donc nous annoncer. Alors enfin le gaillard nous a ouvert, mais à grand-peine encore. En entrant, nous avons trouvé Protagoras qui se promenait dans le portique, accompagné d'un côté de Callias, fils d'Hipponicos, de son frère Utérin, Paraios, fils de Périclès, et de Charmide, fils de Glaucon. De l'autre côté, de l'autre fils de Périclès, Xanthippe de Philippide, fils de Philomélos, d'Antiboaros de Mendée, le plus renommé des disciples de Protagoras, qui étudie pour faire métier de sophiste. Derrière eux, tendant l'oreille pour écouter, marchait une troupe de gens où dominaient évidemment les étrangers que Protagoras amène de chacune des villes par où il passe. Il est charme de sa voix comme Orphée, et enchanté par cette voix magique, il s'attache à ses pas. Puis il y avait aussi des gens d'ici dans le chœur. En voyant ce chœur, j'ai pris plaisir à observer avec quelle déférence ils évitaient de gêner Protagoras en se trouvant devant lui. Toutes les fois qu'il se retournait avec sa compagnie, toute la suite des écouteurs s'écartait à droite et à gauche dans un ordre parfait, et se rangeant en cercle, se replaçait chaque fois derrière lui avec un ensemble admirable. Après lui, j'avisais, pour me servir de l'expression d'Homère, Hippias d'Élis, assis dans la galerie du fond, sur un siège élevé, et autour de lui, sur les bancs, était assis Eryximaque, fils Eryximaque, Phèdre du Myrionte, Andron, fils d'Anthotion, des concitoyens d'Hippias et quelques autres étrangers. Il semblait questionner Hippias sur la nature et les phénomènes astronomiques, et lui, du haut de son siège, tranchait et débrouillait les difficultés que chacun lui soumettait. En ce moment, mes yeux s'arrêtèrent aussi sur Tantale, c'est-à-dire Prodicos de Céos, car il était bien présent. Il était dans une chambre qui auparavant servait de cellier à Hipponikos, mais que Callias, vu l'affluence des hôtes, avait débarrassé pour la mettre aussi à la disposition des étrangers. Podikos était encore couché, enfoui, à ce qu'il m'a semblé, sous les fourrures et les couvertures entassées. Auprès de lui, sur les lits voisins, se trouvait Pausanias Décéramé, et avec Pausanias, un jeune adolescent qui m'a apparu d'un excellent naturel et qui est à coup sûr d'une beauté parfaite. J'ai cru entendre qu'il s'appelait Agathon, et je ne serais pas étonné qu'il fût le mignon de Pausanias. Il y avait donc cet adolescent et les deux adimantes, l'un fils de Képis et l'autre de Leucolophide, et quelques autres. Pour le sujet de leur entretien, je n'ai pu, du dehors où j'étais, le saisir, malgré mon vif désir d'entendre Prodikos, qui me paraît être un sage accompli, un homme divin. Sa voix de basse taille, résonnant dans la chambre, arrivait en sons indistincts. À peine étions-nous entrés qu'entrait derrière nous Alcibiade le Beau, comme tu dis, avec raison, selon moi, et Critias, fils de Calaïscros. Pour nous, après avoir franchi la porte, nous avons passé quelques instants à regarder ce tableau. Puis nous nous sommes avancés vers Protagoras, je lui ai dit « C'est toi que nous cherchons, Protagoras, Hippocrate, que voici et moi. » « Voulez-vous me parler en particulier ou en présence de tout le monde ?»« Oh, cela nous est égal à nous. Mais écoute ce qui nous amène et vois toi-même. »« Qu'est-ce donc qui vous amène ?»« Ben, Hippocrate, que voici, est d'Athènes, fils d'Apollodore, d'une maison considérable et opulente. Personnellement, il paraît aussi bien doué qu'aucun jeune homme de son âge. Il aspire, je crois, à tenir un rang illustre dans l'État, et il croit que le meilleur moyen d'y réussir est de prendre tes leçons. Vois maintenant s'il te convient de nous entretenir là-dessus en particulier, ou devant les autres. C'est bien fait à toi, Socrate, de veiller avec cette prévoyance à mes intérêts, car un étranger qui vient dans de grandes villes pour y persuader à l'élite des jeunes gens de quitter toute autre société de parents et d'étrangers, soit vieux, soit jeune, pour s'attacher à lui afin de devenir meilleur par son commerce, un étranger qui fait cela doit user de circonspection, car c'est un métier qui soulève contre lui des jalousies, des haines et des embûches redoutables. Pour moi, j'ose affirmer que la profession de sophiste est ancienne, mais ceux qui la pratiquaient dans les premiers temps, craignant la défaveur qui s'y attache, la pratiquait sous le déguisement ou le voile de la poésie, comme Homère, Hésiode, Simonide, ou des mystères et des oracles, comme Orphée, Musée et leurs disciples. J'ai remarqué que quelques-uns même l'abritaient derrière la gymnastique, comme Icos de Tarente, et c'était Rhodicos de Sémébris, originaire de Mégare, sophiste encore vivant, qui ne craint aucun rival. C'est sous le manteau de la musique que votre Agathoclès, ce grand sophiste, s'est caché, ainsi que Philoticlides de Céos et beaucoup d'autres. Tous ces gens-là, je le répète, ont pris prétexte de César pour se mettre à l'abri de l'envie. Pour moi, je ne partage pas leur avis sur ce point, persuadé que je suis qu'ils ont entièrement manqué leur but. Car ceux qui détiennent le pouvoir dans les cités ne se laissent pas prendre à ces finesses imaginées pour eux. Quant à la foule, elle ne s'aperçoit pour ainsi dire de rien. Elle répète seulement ce que ceux-ci lui font dire. Vouloir se dérober comme un esclave marron, alors qu'on y peut réussir et qu'on est forcément découvert, c'est folie même de l'entreprendre, et cela ne peut aboutir qu'à renforcer la malveillance, car c'est ajouter la fourberie aux autres griefs que le vulgaire a contre nous. Aussi, moi, je suis d'une voix toute différente. Je confesse que je suis sophiste et que j'instruis les hommes, et je crois ma précaution meilleure que la leur, et qu'il vaut mieux avouer que nier. Outre cette précaution, j'en ai imaginé d'autres, de manière à éviter, avec l'aide de Dieu, les disgrâces que je pourrais encourir en me donnant pour sophiste. Il y a pourtant déjà bien des années que j'exerce cette profession, car le total de mes années est considérable. Il n'y en a pas un d'entre vous dont, par mon âge, je ne puisse être le père. Aussi rien ne peut me faire autant de plaisir, si vous le voulez bien, que de traiter toutes ces questions devant toute la compagnie qui est ici. Alors moi, qui me doutais bien qu'il voulait se faire valoir en montrant à Prodicos et à Hippias que nous étions venus pour l'amour de lui, je lui dis « Alors, il faut appeler Prodicos et Hippias, et ceux qui sont avec eux pour que nous les écoutent. »« Oui, dit Prodicos. Voulez-vous, dit Callias, que nous disposions des sièges pour une assemblée afin que vous parliez assis ?» Oh, ce fut l'avis général. Et tous, joyeux à la pensée d'entendre parler des savants, nous avons pris nous-mêmes les bancs et les lits pour les disposer près d'Hippias, car c'est là que se trouvaient déjà les bancs. À ce moment, Callias et Alcibiade amenaient Prodicos, qu'ils avaient fait lever de son lit, et les gens qui étaient avec lui. Quand nous fûmes tous assis, Protagoras prit la parole. À présent, Socrate, que la compagnie est là, tu peux reprendre le sujet dont tu m'as touché un mot tout à l'heure à propos de ce jeune homme. Je répondis, je commencerai, Protagoras, comme tout à l'heure, par le but de notre visite. Hippocrate, que voici, est piqué du désir de se mettre à ton école, et il dit qu'il aimerait savoir quels avantages il retirera de ton commerce. Voilà tout ce que nous avons à te dire. Protagoras reprit alors, jeune homme, l'avantage que tu retireras de mon commerce, c'est que quand tu auras passé un jour avec moi, tu retourneras chez toi meilleur que tu n'étais le lendemain de même, et chaque jour tu feras des progrès vers le mieux. Ayant entendu cette déclaration, je repris la parole. Oh, ce que tu dis là, Protagoras, n'est pas extraordinaire, c'est naturel au contraire. Car, si âgé et si savant que tu sois, si on t'enseignait ce que tu ne sais pas, tu deviendrais meilleur. Non, ce n'est pas cela que je te demande. Mais supposons par exemple que, changeant tout d'un coup de fantaisie, Hippocrate ait envie de s'attacher à ce jeune homme qui vient d'arriver chez nous, Xippos d'Héraclée, qu'il aille le trouver comme il vient te trouver à présent, et qu'il s'entende dire, comme il vient de l'entendre de ta bouche, que chaque jour, grâce à son commerce, il deviendra meilleur et fera des progrès, et qu'enfin il lui demande, « Mais en quoi prétends-tu que je deviendrai meilleur, et en quoi ferai-je des progrès ?» Xippos lui répondrait que c'est en peinture. Supposons que ce soit attaché à Orthagoras de Thèbes, et que celui-ci fasse les mêmes promesses que toi. S'il lui demandait en outre en quoi il deviendrait chaque jour meilleur par sa fréquentation, Orthagoras répondrait que c'est dans l'art de jouer de la flûte. Réponds de même, toi aussi, à ce jeune homme et à moi, qui te questionne pour lui. Hippocrate, en s'attachant à Protagoras, dès le jour qu'il aura passé en sa compagnie, s'en retournera meilleur et chaque jour qui s'écoulera, il progressera d'autant. Mais en quoi, Protagoras? Et sur quoi? Après m'avoir entendu, Protagoras répliqua. Oh, tu t'entends à merveille à poser des questions, Socrate. Et moi, de mon côté, j'ai plaisir à répondre aux questions bien posées. Hippocrate, en venant à moi, n'aura pas les ennuis qu'il aurait en s'attachant à tout autre sophiste. Les autres sophistes traitent outrageusement les jeunes gens. Ils ont beau avoir dit adieu aux arts, les sophistes les y ramènent malgré eux et les y replongent, leur enseignant le calcul, l'astronomie, la géométrie, la musique. et se disant, il regardait Hippias. Au contraire, en venant à moi, il n'apprendra que la science pour laquelle il est venu. Cette science est la prudence qui, dans les affaires domestiques, lui enseignera la meilleure façon de gouverner sa maison, et dans les affaires de la cité, le mettra le mieux en état d'agir et de parler pour elle. Ai-je bien suivi ta pensée ? Demandai-je. Ah, tu veux parler sans doute de l'art politique, et tu te fais fort de former de bons citoyens. Oui, c'est cela même, Socrate, dit-il. Voilà la science dont je fais profession. C'est à coup sûr une belle science que tu possèdes là, s'il est vrai que tu la possèdes, car je ne te cacherai pas ma façon de penser. Je ne croyais pas, Protagoras, qu'on puisse enseigner cette science, mais puisque tu le dis, il faut bien que je te croie. Cependant, il est juste que je te dise pourquoi je pense qu'elle ne saurait être enseignée ni transmise d'homme à homme. Je suis persuadé, avec tous les autres Grecs, que les Athéniens sont sages. Or, je vois que, dans une assemblée publique, s'il s'agit de délibérer sur une construction, on fait venir les architectes pour prendre leur avis sur les bâtiments à faire. S'il s'agit de construire des vaisseaux, on fait venir les constructeurs de navires, et de même pour tout ce qu'on tient susceptible d'être appris et enseigné. Mais si quelque autre se mêle de donner des conseils, sans être du métier, si beau, si riche, si noble qu'il soit, il n'en reçoit pas pour cela meilleur accueil. Au contraire, on le raille, on le siffle, ce donneur d'avis, jusqu'à ce qu'il se retire lui-même sous les huées ou que les archers l'entraînent et l'enlèvent sur l'ordre des prytanes. Voilà comment les Athéniens se comportent dans ce qu'il paraît toucher au métier. Mais si au contraire il faut délibérer sur le gouvernement de la cité, chacun se lève pour leur donner des avis, charpentier, forgeron, cordonnier, marchand, armateur, riche ou pauvre, noble ou roturier indifféremment, et personne ne leur reproche, comme au précédent, de venir donner des conseils alors qu'ils n'ont étudié nulle part et n'ont été à l'école d'aucun maître. Preuve évidente qu'on ne croit pas que la politique puisse être enseignée. Et ce n'est pas seulement dans les affaires publiques qu'il en est ainsi, mais dans la vie privée. Nos concitoyens les plus sages et les meilleurs sont incapables de transmettre à d'autres le talent qu'ils possèdent. Ainsi Périclès, le père des jeunes gens, que voilà, les a fait instruire à merveille de ce qui dépend des maîtres. Mais pour sa propre sagesse, il ne le leur enseigne pas, ni ne leur fait enseigner par d'autres. Mais il les laisse courir et paître en liberté, comme des animaux sacrés, pour voir si d'eux-mêmes ils tomberont sur la vertu. Veux-tu un autre exemple ? Ce même Périclès, chargé de la tutelle de Clinias, frère cadet d'Alcibiade, ici présent, craignant qu'il ne fût gâté par le contact de son aîné, le sépara de lui et le mit chez Artifron pour y être élevé. Mais il ne s'était pas passé 6 mois, qu'Artifron le lui rendait, ne sachant que faire de lui. Je pouvais en citer bien d'autres, qui étant de même pleins de mérite, n'ont jamais amélioré personne, ni de leurs parents, ni des étrangers. Et c'est la vue de ces exemples, Protagoras, qui me fait croire que la vertu ne saurait être enseignée. Pourtant, lorsque je t'entends parler, comme tu le fais, ma conviction fléchit, et je pense que tu pourrais bien avoir raison, parce que tu dois avoir une vaste expérience, et que tu dois avoir appris beaucoup d'autrui, beaucoup par tes propres réflexions. Si donc tu peux nous démontrer clairement qu'on peut enseigner la vertu, ne nous refuse pas cette faveur, démontre-le. J'y consens, Socrate, dit-il, mais dois-je faire ma démonstration en vous disant une fable, comme un vieillard fait un conte à des jeunes gens, ou en discutant pied à pied la question ? Beaucoup des assistants lui répondirent qu'il traita le sujet comme il l'entendrait. « M'est avis, dit-il, que vous aurez plus de plaisir à entendre une fable. » Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre, d'un mélange de terre et de feu et des éléments qui s'allient au feu et à la terre. Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de les pourvoir et d'attribuer à chacun des qualités appropriées. Mais Épiméthée demanda à Prométhée de lui laisser seul faire le partage. « Quand je l'aurai fini, tu viendras l'examiner. » Sa demande accordée, il fit le partage, et en le faisant, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là, mais il imagina pour eux d'autres moyens de conservation. Car à ceux d'entre eux qui logeaient dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir ou un refuge souterrain, et pour ceux qui avaient l'avantage d'une grande taille, leur grandeur suffit à les conserver, et il appliqua ce procédé de compensation à tous les animaux. Ces mesures de précaution étaient destinées à prévenir la disparition des races. Mais quand il leur eut fourni les moyens d'échapper à une destruction mutuelle, il voulut les aider à supporter les saisons de Zeus. Et il imagina pour cela de les revêtir de poils épais, de peau serrée, suffisantes pour les garantir du froid, capables aussi de les protéger contre la chaleur, et destinés enfin à servir, pour le temps du sommeil, de couvertures naturelles propres à chacun d'eux. Il leur donna en outre comme chaussures, soit des sabots de corne, soit des peaux calleuses et dépourvues de sang. Ensuite, il leur fournit des aliments variés suivant les espèces, aux uns l'herbe du sol, aux autres les fruits des arbres, aux autres des racines. À quelques-uns même, il donna d'autres animaux à manger, mais il limita leur fécondité et multiplia celle de leurs victimes pour assurer le salut de la race. Cependant, Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait, et il lui restait la farce race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes. Et le jour fixé approchait où il fallait l'amener du sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna, la connaissance des arts avec le feu. Car sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile. Et il en fait présent à l'homme. L'homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie. Mais il n'avait pas la science politique. Celle-ci se trouvait chez Zeus, et Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole que Zeus habite, et où veille d'ailleurs des garde redoutable. Il se glisse donc furtivement dans l'atelier commun où Athéna et Héphaïstos cultivaient leur amour des arts. Il y dérobe au dieu son art de manier le feu et à la déesse l'art qui lui est propre, et il en fait présent à l'homme, et c'est ainsi que l'homme peut se procurer des ressources pour vivre. Et dans la suite, Prométhée fut, dit-on, puni du larcin qu'il avait commis par la faute d'Épiméthée. Quand l'homme fut en possession de son lot divin, d'abord à cause de son affinité avec les dieux, il crut à leur existence, privilège qu'il a seul de tous les animaux, et il se mit à leur dresser des autels et des statues. Ensuite, il eut bientôt fait grâce à la science qu'il avait d'articuler sa voix, et de former les noms des choses, d'inventer les maisons, les habits, les chaussures, les lits, et de tirer les aliments du sol. Avec ces ressources, les hommes à l'origine vivaient isolés, et les villes n'existaient pas. Aussi périssaient-ils sous les coups des bêtes fauves, toujours plus fortes qu'eux. Les arts mécaniques suffisaient à les faire vivre, mais ils étaient d'un secours insuffisant dans la guerre contre les bêtes, car ils ne possédaient pas encore la science politique dont l'art militaire fait partie. En conséquence, ils cherchaient à se rassembler et à se mettre en sûreté en fondant des villes. Mais quand ils s'étaient rassemblés, ils se faisaient du mal les uns aux autres parce que la science politique leur manquait, en sorte qu'ils se séparaient de nouveau et périssaient. Alors Zeus, craignant que notre race ne fût anéantie, envoya Hermès porter aux hommes la pudeur et la justice pour servir de règle aux cités et unir les hommes par les liens de l'amitié. Hermès alors demanda à Zeus de quelle manière il devait donner aux hommes la justice et la pudeur. Dois-je les partager comme on a partagé les arts? Or, les arts ont été partagés de manière qu'un seul homme, expert en l'art médical, suffit pour un grand nombre de profanes et les autres artisans de même. Dois-je répartir ainsi la justice et la pudeur parmi les hommes ou les partager entre tous? Entre tous, répondit Zeus, que tous y aient part, car les villes ne sauraient exister si ces vertus étaient, comme les arts, le partage exclusif de quelques-uns. Établis en outre à mon nom cette loi que tout homme incapable de pudeur et de justice sera exterminé comme un fléau de la société. Voilà comment, Socrate, et voilà pourquoi les Athéniens et les autres, quand il s'agit d'architecture ou de tout autre art professionnel, pensent qu'il n'appartient qu'à un petit nombre de donner des conseils. Et si quelque autre en dehors de ce petit nombre se mêle de donner un avis, ils ne le tolèrent pas, comme tu dis, et ils ont raison, selon moi. Mais quand on délibère sur la politique, où tout repose sur la justice et la tempérance, ils ont raison d'admettre tout le monde, parce qu'il faut que tout le monde ait part à la vertu civile, autrement il n'y a pas de cité. Voilà, Socrate, la raison de cette différence. Mais pour que tu ne t'imagines pas que je t'abuse, en te disant que tout le monde est réellement persuadé que chacun a part à la justice et aux autres vertus civiles, je vais t'en donner une nouvelle preuve. Pour les autres qualités, c'est ton mot. Si quelqu'un, par exemple, prétend exceller sur la flûte ou en tout autre art, alors qu'il ne s'y entend pas, on le raille, on le rebute, et ses proches viennent le chapitrer sur sa folie. Mais en ce qui concerne la justice et les autres vertus politiques, si l'on connaît quelqu'un pour un homme injuste, et si, témoignant contre lui-même, il avoue la vérité devant le public, cette confession de la vérité qui passait tout à l'heure pour sagesse passe ici pour folie, et l'on est convaincu qu'il faut que tous les hommes se disent justes, qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas, et que c'est folie de ne pas simuler la justice, car il est nécessaire que chacun, sans exception, ait quelque part à la justice, ou qu'il disparaisse du milieu des hommes. Qu'on ait raison d'admettre chacun à donner son avis sur cette vertu, parce qu'on est persuadé qu'elle est le partage de chacun, voilà ce que je viens d'établir. Mais qu'on le regarde non pas comme un don de la nature ou un effet du hasard, mais comme une chose qui peut s'enseigner ou s'acquérir par l'exercice, voilà ce que je vais essayer maintenant de te démontrer. Et en effet, pour les défauts naturels ou accidentels que l'on remarque les uns chez les autres, personne ne se fâche contre eux. Contre ceux qui s'en sont affligés, personne ne les reprend, ne leur fait la leçon, ne les châtie, afin qu'ils cessent d'être ce qu'ils sont. On a simplement pitié d'eux. Qui serait assez fou, par exemple, pour infliger de tels traitements à des personnes laides, petites ou débiles? On sait bien, n'est-ce pas, que c'est de la nature et du hasard que les hommes tiennent ces qualités de beauté ou de laideur. Mais pour les qualités qu'on regarde comme un effet de l'application, de l'exercice et de l'étude, lorsqu'on ne les a pas et qu'on a les vices contraires, c'est alors que l'indignation, les châtiments, les remontrances trouvent à s'appliquer. Et au nombre de ces défauts sont l'injustice, l'impiété et en général tout ce qui est contraire à la vertu publique. Ici, chacun s'indigne et s'élève contre le vice, évidemment parce qu'il est persuadé que cette vertu s'acquiert par l'application et l'étude. Si en effet, Socrate, tu veux bien faire réflexion sur le sens de cette expression « punir les méchants », cela suffira pour te convaincre que les hommes regardent la vertu comme une chose qu'on peut acquérir. Personne en effet ne punit un homme injuste par la simple considération et le simple motif qu'il a commis une injustice, à moins qu'il le punisse à l'aveugle, comme une bête féroce. Mais celui qui veut punir judicieusement ne punit pas à cause de l'injustice, qui est chose passée, car il ne saurait faire que ce qui est fait ne soit pas fait. Mais il punit en vue de l'avenir, afin que le coupable ne retombe plus dans l'injustice et que son châtiment retienne ceux qui en sont les témoins. Bien penser ainsi, c'est penser que la vertu peut être enseignée, puisque le châtiment a pour but de détourner du vice. Telle est l'opinion de tous ceux qui punissent en leur nom et au nom de l'État. Or, tous les hommes punissent et châtient ce qu'ils regardent comme injuste. Et les Athéniens, tes concitoyens aussi bien que les autres, de sorte que, suivant ce raisonnement, les Athéniens sont de ceux qui pensent que la vertu s'acquiert et s'enseigne. Ainsi, que tes concitoyens aient raison d'accueillir les conseils du forgeron et du cordonnier en matière politique, et qu'ils soient convaincus que la vertu s'enseigne et s'acquiert, voilà Socrate qui est suffisamment démontré, si je ne m'abuse. Reste la difficulté que tu as soulevée à propos des hommes vertueux. Tu demandais pourquoi les hommes vertueux font apprendre à leurs enfants tout ce qui s'enseigne dans les écoles et réussissent à les rendre savants, tandis que dans la vertu où ils excellent, ils ne peuvent les rendre supérieurs à personne. Bon, pour traiter cette question, Socrate, au lieu de recourir à la fable, j'emploierai le raisonnement. Arrête ta réflexion sur ceci. Y a-t-il, oui ou non, une chose unique à laquelle il faut que tous les citoyens participent si l'on veut qu'un État subsiste? C'est ici que nous trouverons la solution de la difficulté qui t'arrête, ou nous ne la trouverons nulle part. Car si cette chose existe, et si cette chose unique n'est pas l'art de l'architecte, ni du forgeron, ni du potier, mais la justice, la tempérance, la sainteté, et pour exprimer d'un seul mot une chose unique, la vertu, si c'est une chose à laquelle il faut que tous les hommes aient part, à laquelle tout homme qui veut apprendre ou faire quelque chose doit conformer sa conduite, sinon renoncer à son dessein, si c'est une chose telle qu'il faut instruire et punir tout homme qui en est dénué, enfant, homme, femme, jusqu'à ce qu'il s'améliore par le châtiment, et s'il ne se rend point malgré les châtiments et les remontrances, le chasser des cités et le mettre à mort comme incurable, s'il en est ainsi, et si malgré cela les hommes vertueux font instruire leurs fils en toutes choses et non en celles-ci, vois quelle conduite étonnante est la leur. Ils sont en effet convaincus, nous l'avons démontré, que la vertu peut être l'objet d'un enseignement public et privé, et avec cette conviction qu'elle est susceptible d'être enseignée et cultivée, ils feraient apprendre à leurs fils toutes les choses dont l'ignorance n'est point punie de mort, et celles qui exposent leurs enfants, s'ils ne l'ont pas apprise, n'ont pas été formés à la vertu, à la peine de mort, à l'exil, et outre la mort, à la confiscation et pour leur dire en un mot, à la ruine de leur maison. Ils ne leur feraient pas apprendre. Ils n'y mettraient pas toute leur application. Mais c'est une chose impossible à admettre, Socrate. Cet enseignement, cette éducation, commence à l'âge tendre, et les pères la poursuivent jusqu'à leur mort. Dès que l'enfant comprend ce qu'on lui dit, nourrice, mère, gouverneur, sans parler du père lui-même, s'évertue à le perfectionner. Chaque action, chaque parole sert de texte à un enseignement direct. Telle chose est juste, lui dit-on, telle autre injuste. Ceci est beau, cela est honteux. Ceci est saint, cela impie. Fais ceci, ne fais pas cela. Il se peut que l'enfant obéisse volontairement. Il se peut qu'il soit indocile. Alors, comme on fait d'un bois coupé et gauchi, on le redresse par les menaces et les coups. Puis on envoie les enfants à l'école et on recommande beaucoup plus aux maîtres de veiller à leurs mœurs que de leur apprendre les lettres et la cithare. Les maîtres y veillent en effet, et quand leurs élèves savent lire et sont à même de comprendre ce qui est écrit, comme ils comprenaient les leçons orales, on leur donne à lire sur leur banc les œuvres des grands poètes, et on les leur fait apprendre par cœur. Ils y trouvent quantité de préceptes, quantité de récits à la louange et à la gloire des héros d'autrefois. On veut que l'enfant, pris d'émulation, les imite et s'efforce de leur ressembler. Les maîtres de cithare font de même. Ils s'appliquent à rendre les jeunes gens tempérants et veillent à ce qu'ils ne fassent rien de mal. Puis, quand ils leur ont appris à jouer de la cithare, ils leur font étudier les œuvres d'autres grands poètes, les poètes lyriques, en les faisant exécuter sur l'instrument. Ils forcent ainsi les âmes des enfants à s'approprier les rythmes et les accords pour qu'ils se rendent plus doux et que, devenus mieux rythmés et plus harmonieux, ils soient bien préparés pour la parole et pour l'action, car toute la vie de l'homme a besoin de nombre et d'harmonie. Après cela, on les envoie encore chez le maître de gymnastique, afin qu'ils aient un corps plus sain à mettre au service d'un esprit vertueux et ne soient pas des trembleurs à la guerre et ailleurs, par la faiblesse de leur constitution. Voilà ce qu'on fait pour l'éducation des enfants. Plus on le peut, plus on la soigne. Et on le peut d'autant plus qu'on est plus riche. Et ce sont les enfants des riches qui commencent le plus tôt à fréquenter l'école et qui la quittent le plus tard. Quand ils sortent des mains des maîtres, la cité, à son tour, leur fait apprendre ses lois et régler leur conduite sur elles, comme sur un modèle, au lieu de les laisser faire à leur tête et suivre leur fantaisie. Tout comme les maîtres d'école tracent des lignes avec leurs stylets pour les enfants qui ne savent pas encore écrire, puis leur mettent en main les tablettes et les font écrire en suivant ces lignes, ainsi la cité a tracé les lois inventées jadis par de vertueux législateurs, et elle exige qu'on gouverne et qu'on se laisse gouverner par ces lois, et punit ceux qui les transgressent. Et cette punition s'appelle chez vous et en beaucoup d'autres endroits redressement d'enfants, parce que le but du châtiment est de redresser. Après tant de soins donnés à la vertu, en particulier comme en public, peux-tu bien t'étonner, Socrate, et douter que la vertu puisse être enseignée? Loin de le trouver surprenant, il faudrait bien plutôt s'étonner du contraire. D'où vient donc que des hommes de mérite ont souvent des fils médiocres? Apprends-en la raison. Il n'y a là rien que de naturel. S'il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut, pour que la cité subsiste, que tout le monde soit instruit dans cette science qu'est la vertu. Si donc ce que je dis est vrai, et il n'y a rien de plus vrai, considère parmi les autres occupations et les autres sciences celle qu'il te plaira. Supposons par exemple que la cité ne puisse exister qu'à la condition que nous soyons tous joueurs de flûte. chacun dans la mesure de nos moyens, que dès lors chacun enseigne la flûte aux autres, et en particulier et en public, réprimande celui qui joue mal, et fasse part de son talent, comme on fait part de sa connaissance de la justice et des lois, sans en faire mystère, comme on le fait dans les autres arts. Nous trouvons en effet, j'imagine, notre avantage dans la pratique mutuelle de la justice et de la vertu, et c'est pour cela que chacun est porté à dire et à enseigner aux autres ce qui est juste et légal. Supposons, dis-je, que nous ayons le même empressement, sans réserve, à nous enseigner mutuellement la flûte. Penses-tu, Socrate, me dit-il, que les fils des bons joueurs de flûte deviendraient plus habiles que les fils des mauvais? Oh, je suis convaincu que non. Ce serait l'enfant le mieux doué pour la flûte, quel que fût son père, qui grandirait en renommée, et l'enfant mal doué qui resterait obscur. Et souvent, le fils d'un bon joueur de flûte resterait mauvais, et le fils d'un mauvais deviendrait bon. Cependant, tous les citoyens seraient des joueurs de flûte passables, comparés aux ignorants, complètement étrangers à l'art de la flûte. Et il y a de même pour certains, dans le cas qui nous occupe, qu'un homme qui te paraît le plus injuste dans une société soumise à des lois est juste et savant en justice si on le compare à des hommes qui n'auraient ni éducation, ni tribunaux, ni lois, ni rien qui les contraigne jamais à cultiver la vertu, espèce de sauvage semblable à ceux que le poète Phrécrate a fait représenter l'an passé au Lénacon. À coup sûr, si tu te trouvais parmi de tels hommes, comme les misanthropes parmi les sauvages qui forment le cœur de la pièce, tu t'estimerais heureux de tomber sur un Eurybate ou un Frirondas, et tu gémirais et tu regretterais la méchanceté des gens d'ici. Mais maintenant, tu te prévaux, Socrate, parce que tout le monde enseigne la vertu dans la mesure de ses moyens, et qu'ainsi personne ne te paraît l'enseigner. C'est comme si tu cherchais quel maître nous apprend à parler grec, tu n'en trouverais pas. Et si tu cherchais de même un homme qui pût apprendre aux fils des artisans l'art même que leurs pères leur ont enseigné avec toute la capacité qui leur est propre à eux-mêmes et à ceux de leur profession, et qui pût les pousser plus loin encore, un tel maître, Socrate, serait, je crois, difficile à trouver, tandis qu'il serait fort aisé d'en trouver un pour des ignorants. Et la même chose peut se dire de la vertu et de tout le reste. Mais s'il y a des gens qui l'emportent tant soit peu sur les autres pour faire avancer dans la vertu, c'est déjà un joli privilège. Oh, je crois être un de ceux-là. Je crois que je suis supérieur aux autres pour aider à devenir vertueux, que je mérite le salaire que j'exige, et même un peu plus grand, de l'aveu même de mes élèves. Aussi voici comment je procède pour me faire payer mes honoraires. Quand quelqu'un a reçu mes leçons, il me paye, s'il veut, la somme que je lui demande. Sinon, il entre dans un temple. Il y déclare, sous la foi du serment, le prix que vaut à ses yeux mon enseignement, et il y dépose juste la somme. Voilà, Socrate, et la fable et les raisons par lesquelles je voulais te prouver que la vertu est matière d'enseignement, que c'est l'opinion des Athéniens et qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que les fils de pères distingués soient sans mérite et les fils de pères sans mérite soient distingués. Témoins, les fils de Polyclète, jeune gens de l'âge de Palolos et de Xanthippe ici présents, qui ne sont rien à côté de leur père, et d'autres fils d'artistes qui sont dans le même cas. Quant à ceux-ci, il ne faudrait pas déjà les mettre en cause. Leur jeunesse laisse encore à espérer.